Saint-Cichard. Oui, les débats en réalité ont été d'une richesse tellement extraordinaire. Et de façon générale, ce que l'on peut dire du tableau que nous venons d'avoir et tout ce qui a été dit, le religieux porte effectivement le discours sur le religieux, la réflexion sur le religieux, porte à avoir tout le temps cette possibilité-là, la possibilité de tenir plusieurs discours. Et à peu près c'est ce que nous avons entendu, du discours de Sophie au discours de l'abbé, nous avons eu plusieurs tableaux, plusieurs séquences. Et chacune des séquences, extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante et pertinente. Et c'est peut-être cela, à mon avis, qui est, si on doit parler de miracle, à propos de religion, le miracle peut-être de la religion, cette possibilité de fécondation sans cesse, cette possibilité de produire sans cesse un discours pertinent sur la chose. Je vais commencer par la fin, le discours de l'abbé, qui est très intéressant comparé au premier discours, celui de Sophie. Parce que c'est un retour au texte en réalité, un retour au texte. Mais en même temps, un retour au texte qui ne se suffit pas seulement d'un simple retour au texte, qui fait aussi allusion à l'histoire. Et c'est l'histoire de la fécondation mutuelle, en réalité, des religions. Et cette tension-là, être dans la capacité de la tenir, m'a paru extrêmement intéressante, puisqu'elle permet en fait de pointer sur le troisième élément structurant de son discours, qui est en réalité la discussion peut-être de ce qu'on a présenté, de ce que nous avons tous tendance à... qu'on ne peut pas non plus écarter, c'est la déclaration ou cette volonté de monopole inaugurale autour de la vérité ou pour la vérité, comme cela a été bien exprimé tout à l'heure. Mais l'abbé introduit quelque chose qui est... Son retour au texte, il introduit quelque chose qui est quand même décisif. C'est la falsifiabilité dont parlait l'autre. C'est ce monopole, en précisant bien que c'est Dieu qui a voulu nombreuses, plurielles, les religions. Et donc, moi, ces trois points-là m'ont paru extrêmement importants dans les choses qu'il a dites, et évidemment, également, le cri de cœur également qui a été lancé sur « Abat les divisions, imbéciles, abat les ennemis qui divisent, etc. » Oui, comme dit Cher, cela paraît être un discours généreux. Mais en même temps, quelqu'un hier que j'ai entendu dans un panel disait, en citant un autre personnage qui n'est plus de bon ton de citer, en disant en fait, il n'y a pas de lutte révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Donc ces visions-là des choses, elles sont aussi importantes. Donc la mondialisation néolibérale, une des grosses réussites qu'elle a eues, c'est en fait de développer une certaine forme de culpabilité quant aux choses comme l'innocence, quant aux choses comme la générosité. Et il nous faut effectivement peut-être retrouver le courage de la générosité en ces matières-là. Ça peut être fondamental pour féconder nos progressions vers les chemins en fait, qui se sont exprimés ici, les chemins de l'unité, du dialogue. Voilà ce que je voulais dire à peu près en gros à propos du discours de l'abbé. Pour en fait mieux dialoguer et discuter avec ce que peut-être Sophie a dit, moi j'ai noté comme ça un certain nombre de choses. Par exemple, avec Cher, avec lequel on vient de finir un petit texte, donc peut-être que vous aurez également la possibilité de lire et d'apporter vos critiques. À un moment donné, nous reprenions une réflexion d'un de nos aînés, Souleymane Bachir Diagne, qui disait les hommes habitent dans le champ politique tel qu'ils vivent, en fait. Et j'aimerais interpeller Sophie aussi sur ça. Cela me semble très intéressant, cela peut être en tout cas intéressant qu'elle puisse rebondir un peu sur ça, par rapport au caractère extrêmement fort, extrêmement structuré, effectivement de l'introduction qu'elle a réalisée pour nous. Parce que la question de la séparation des instances, la question du quel type d'occupation du sens social par le religieux, oui, elle se pose, mais dans quelle mesure elle dialogue, dans quelle mesure elle coexiste avec cette réalité simple que nous ne pouvons pas vivre artificiellement dans l'espace sociopolitique. Nous y vivons tel que nous vivons en fait, hein, tel que nous sommes. Et cette question-là, elle est importante. Et cela me permet de rebondir, puisque le choix nous a été donné, le choix du terme nous a été donné, moi je choisis l'hypocrisie des États, sur cette question-là. Et pour dire, en fin de compte, ces incohérences-là, ces hypocrisies-là des États dont on a parlé, c'est aussi peut-être quelque part une certaine forme de négociation, des respirations sans lesquelles on ne s'en sort pas. Les choses deviennent rigides au point où, à la moindre petite tension, cassure pourrait se produire. Et donc, moi je le perçois comme peut-être éventuellement des espaces de respiration, de négociation avec la marge que les uns et les autres se donnent. Évidemment, dans l'approche qui a été toujours posée par Sophie, la question du texte, donc encore ce retour, on peut faire retour de nouveau à la question du monopole en fait de la vérité et les incidences que cela. Si moi j'ai la vérité absolue, il n'y a pas de possibilité quelque part, en tout cas en raison toute simple élémentaire, que je puisse admettre que quelqu'un d'autre en ait. Et oui, évidemment que les religions sont d'abord ce discours très fort, ce discours inaugural très fort, et toujours quelque part une volonté de diffuser cela. Parce que si moi je veux le bien et que je suis dans le sentiment d'être dans le bien et que j'aime mon interlocuteur, je voudrais aussi qu'il me rejoigne dans ça. Hein? Et si je perçois que en fait la chose n'est pas possible, tous les moyens, on va dire, hein, je ne le fais pas à la limite même. Hein? À la limite même, je ne le ferai pas par haine, mais je le ferai par amour. Donc c'est aussi une des folies du fanatisme. Hein? Donc, mais ce qui a semblé être un tout petit peu mis à l'écart, hein, pas trop discuté, il me semble, dans l'introduction de Sophie, c'est la part de l'histoire dans le texte. Et j'interpelle aussi un tout petit peu là l'historienne, hein, la part de l'histoire dans le texte.
La part du texte dans l'histoire.
Non, moi je dis, oui, on peut aussi voir ça comme ça. On peut aussi le voir comme ça. Oui. On peut aussi le voir comme ça. Parce que je pensais, par exemple, au califat des Omeyyades et le moment à partir duquel on dit que dans l'islam, la politique commence. Et qu'on sort un tout petit peu de l'islam au sens de religion. De religion, on va dire. Hein? Et que là, on introduit la politique et on inaugure une ère nouvelle. Même si on peut aller beaucoup plus loin. C'est que dès la succession du prophète, évidemment, moi je considère que la politique commence, hein, dans l'islam.
Commence même avant.
Oui. Et commence même dès l'instant où le prophète fait son premier appel. Parce que le premier appel qui vise à une révolution sociale par rapport à un certain nombre de choses et par rapport au contexte qu'il y avait à l'époque. Hein? Donc, voilà, donc ce que je voulais, les points sur lesquels je voulais un peu insister donc, par rapport à ça. Et, quelque part, cette vision un peu pessimiste, parce que comme j'ai dit, le propos a été très fort, cette vision un peu pessimiste, ce doute qui a été bien discuté et bien justifié par différents éléments qui sont très pertinents, il m'a semblé que les discours de Sali et de Salou ont montré quelque part une espèce d'optimisme, la possibilité qu'il est possible d'y arriver. Hein? Parce que l'initiative africaine dont Salou, par exemple, a parlé, c'est quand même cette tradition religieuse qui se sont réunis ensemble et qui ont essayé, qui ont voulu faire des choses. Et évidemment, toute la discussion qui a été menée par lui sur la question des résistances qui ont été vaincues. Et cela montre également qu'il y a possibilité de faire des choses. Des résistances, notées ont été vaincues, surtout de la part des religions monothéistes, qui ne se voulaient pas être au même piédestal que les autres religions qui ne seraient pas qualifiées de religions pour diverses autres raisons. Hein. Donc, mais en même temps également, dans son discours, dans le discours de Saliou, il y a une vision qui pourrait être relativement gênante. C'est le fait qu'en fait, les religions, qu'on puisse en avoir une vision qui presque procéderait d'une approche, à mon avis, trop culturaliste. Trop culturaliste. Et est-ce que ça, ce n'est pas un tout petit peu discutable? Que parce que je réponds de ça, mon comportement sera ça, ça, ça. Et donc, cela m'a relativement, on va dire, entre guillemets, gêné. Maintenant, peut-être pour terminer très rapidement, puisque le chef me fait signe de résumer. Ce qui a été dit par Sali, moi je pense qu'il faut voir, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut interroger. Qu'est-ce que cela donne au bout du compte, si les hommes se mettent ensemble, mettent en place ce que Sali aussi dit, et que Sali dit aussi d'une certaine façon, le dialogue dans l'action. Le dialogue dans l'action. Puisque malgré tout ce que l'abbé a pu en dire, il est évident qu'il y a un noyau dur de problèmes sur cette question-là. Mais peut-être que le dialogue dans l'action, comme vous êtes en train de le faire, la compréhension de nos problèmes, comme disait l'autre, ni pleurer, ni lire, ni rire, mais comprendre, peut-être que comprendre est ici l'avenir, et c'est peut-être ce que je voulais dire très rapidement. Je vous remercie de votre attention. Merci.